L'objectif est de repolitiser, révolutionner l'accompagnement et changer le monde.
Un projet militant.
Comment monter le volume ensemble? On va donc déconstruire les normes.
Et je veux que ça change.
Chère accompagnante et accompagnant du Turfu, bienvenue à bord, Elsa Coteillé speaking, ton accompagnante vénère préférée, pour un nouvel épisode d'Accompagnante, le podcast qui révolutionne l'accompagnement pour changer le monde. Que cela soit en solo ou avec des intervenantes complices, ici on dit que l'accompagnement est politique et qu'on est là pour faire bouger les choses. Et on t'invite à les faire bouger avec nous et à créer une communauté engagée et fière de l'être. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. On se retrouve de l'autre côté après cette dose de power. Est-ce que t'as déjà eu l'impression que ta voix ne comptait pas? Est-ce que t'as déjà eu envie de dire des choses importantes, viscérales, mais sans savoir comment? Ou avec cette peur-là? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça vaut la peine d'être dit? Est-ce que c'est suffisant? Si tu t'es posé ces questions-là, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans cette nouvelle table ronde d'accompagnante. Je vous partage ici la commu une discussion forte, enregistrée en public le 23 septembre 2024 dernier, pendant le Punchline Festival, sur un thème brûlant, porter sa voix. À mes côtés pour cette conversation, Cindy Nippo, podcast manager, mais aussi productrice, réalisatrice sonore et faiseuse d'alignement audio. Cindy, c'est la personne qui m'a accompagnée d'avril à septembre 2024 pour faire renaître ce podcast. Et même si notre collaboration est pour le moment terminée, officiellement, elle reste une présence fidèle, curieuse et hyper soutenante dans ce projet et dans bien d'autres. Dans cet épisode, on parle de ce que ça veut dire porter sa voix dans un monde qui ne nous attend pas. Comment on traverse les peurs, les silences, les blocages? Pourquoi le podcast peut devenir un outil politique, une arme douce ou pas? Une forme d'autodéfense. Comment Cindy accompagne ses clientes et comment ce travail l'amène elle-même à se repositionner? On parle aussi de race, de posture, de création, d'intime et de la puissance de se parler à soi-même à voix haute pour créer. Si vous êtes créatrice de contenu, accompagnante, artiste, militante ou juste une personne sensible qui sent que sa voix mérite mieux qu'un fond de tiroir, écoutez cet épisode et faites-le circuler. Et si le podcast vous touche, prenez 30 secondes pour laisser une note et un avis. Vous pouvez aussi soutenir son existence via la cagnotte libre. Je mettrai le lien en description. Pas de pub ici, pas de sponsor, pas d'algorithme à amadouer. Ce podcast existe parce que vous l'écoutez, parce que vous le soutenez. Merci pour ça. Belle écoute et toujours à votre disposition, avec plaisir, pour accueillir vos résonances. Bienvenue dans cette table ronde qui s'appelle Porter sa voix avec Cindy Nippo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette table ronde sur un sujet qui me touche particulièrement et je sais que qui touche particulièrement Cindy, que ce soit aussi personnellement ou professionnellement, on verra ça ensemble. Donc au programme, l'idée ça va être vraiment de pouvoir vous présenter Cindy et son travail, vous présenter aussi l'accompagnement dont j'ai pu bénéficier auprès de Cindy. Parce que Cindy, c'est une des personnes qui a fait partie de l'équipe du relancement du podcast. On dit souvent qu'entreprendre, c'est quelque chose de solitaire, mais c'est pas obligé. Et donc, Cindy a vraiment fait partie de l'équipe qui a pu me permettre d'accoucher de cette V2 d'accompagnante aujourd'hui et dont on célèbre donc le retour, le relancement avec ce Punchline Festival. Et donc, je suis vraiment contente d'initier cette table ronde aujourd'hui avec Cindy, puisque ce matin, c'était l'ouverture du Punchline Festival. Et là, donc, on initie ensemble la toute première table ronde du festival. Il va en avoir 12 autres après. Et donc, ensuite, on va parler de tout ce qui est lié au mindset autour du fait de porter sa voix. Quand je dis mindset, c'est on peut penser au côté vraiment intellectuel, mental, mais on va aussi parler beaucoup d'émotions, mine de rien. Et Cindy va nous parler de son expérience personnelle autour de la voix. Et bien évidemment, on va parler aussi du podcast comme un support en fait politique. Je pense que ça vous étonne pas trop si vous êtes là. Et ensuite, on va donc échanger sur le métier de Cindy, qui est donc podcast manager. Je vais me taire et je vais laisser le micro à Cindy. C'est
c'est le moment où je te laisse te présenter, si tu veux ta parole, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Et peut-être d'enchaîner tout de suite vers ce cheminement que tu as eu de devenir en fait podcast manager auprès des personnes que tu accompagnes aujourd'hui.
Merci beaucoup, Elsa. Bonjour à toutes. Oui, je pense qu'il y a que des femmes. Moi, je m'appelle Cindy. Je suis maman d'un petit humain de 9 ans. J'aime beaucoup la musique et les fictions. Et en fait, aujourd'hui, je me présente comme podcast manager. Donc, mon métier à moi, c'est de soutenir le message des entrepreneurs. Je les aide de deux façons. Donc, à la fois sur le côté podcast qui leur permet de diffuser leurs paroles, et à la fois sur le côté message, donc clarifier leur message pour qu'il ait plus d'impact. Donc, ça fait 1 an et demi, en fait, que je suis podcast manager, mais j'entreprends depuis 7 ans. Et en fait, en 2021, j'ai eu un coup de cœur, en fait, pour un podcast, on va dire ça comme ça, et j'ai beaucoup aimé la réalisation sonore. Et je me suis dit, OK, c'est ça que j'ai envie de faire. À l'époque, j'étais accompagnante en image de soi. Et en 2022, j'ai eu une sorte d'épuisement. Donc, j'ai tout arrêté, toutes mes activités. Et quand je suis revenue, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Et le seul mot qui me venait, c'était podcast. Donc, et en même temps, ça tombait bien puisqu'il y avait deux formations qui sortaient. Donc, c'était en janvier 2023. Un sur le documentaire de podcast et l'autre sur le podcast management. Donc, j'ai fait les deux. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris ce chemin.
Trop bien. Merci, Cindy, pour ces premiers éléments. C'est vrai que là, je vais peut-être faire un lien avec tout ce qu'on s'est dit déjà toutes les deux, comme quoi, en fait, le podcast était quand même un outil politique et un média d'influence. Et je sais que tu as eu une histoire qui était particulière avec le podcast. Et d'ailleurs, on en a fait une playlist. Cindy a pris le temps de revenir sur ce cheminement qui l'a amené à devenir podcast manager, justement à parler de son coup de cœur en fait en 2021. Et donc pour vous, elle a créé sa playlist avec 5 en fait podcasts qui ont vraiment. Comment tu dirais toi, Cindy, avec tes mots à toi, ces podcasts-là, ils ont résonné comment pour toi?
Je dirais qu'ils m'ont influencé, qui m'ont permis aussi de voir déjà aussi le podcast autrement. Mais aussi moi parce qu'aujourd'hui je me considère comme sensibilisée à certaines choses, à certaines causes, voire même d'être une entrepreneure politisée, et je pense que le podcast y a beaucoup contribué en fait dans ce sujet.
Donc on vous a préparé cette playlist là et je vous l'enverrai, et Cindy vous a même fait un petit descriptif à chaque fois du pourquoi, du comment ça avait résonné avec elle, donc de quoi vous mettre en chemin aussi, voir ce qui résonne avec vous. Et c'est vrai, ce que tu viens de préciser, c'est que non seulement peut-être pour l'influence, l'impact que ça peut avoir, mais même en fait aussi sur tout le potentiel de ce podcast-là, enfin du média en lui-même, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Là, si je devais revenir quand même sur toi, ton accompagnement, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer vraiment dans l'accompagnement des autres pour porter leur voix? Parce que c'est vrai que tu as dit que tu étais accompagnante en image, donc je pense quand même qu'en tant qu'accompagnante en image, tu avais quand même cette idée de porter leur message. L'image, en fait, est un support en fait, pour porter quand même son message, d'incarner aussi son message. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment dit, là, c'est à travers je veux accompagner en fait, les personnes à porter leur voix à travers le podcast et de manière plus globale, en fait, leur communication. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je te présente en tant que podcast manager. Moi, c'est vrai qu'en plus, à la base, j'avais envie de te présenter plus en tant que productrice, même carrément, de podcast. Et c'est toi qui m'as dit « Wow, slow down ». Je lui ai dit « Non, plutôt podcast manager ». Mais quand même, je sais que tu as cette casquette qui est toute proche. Parce que tu montes, tu crées, tu as aussi en fait, beaucoup d'appétence pour l'identité auditive. Mais c'est vrai que tu as aussi l'autre casquette qui est vraiment dans d'une manière plus globale en fait, au niveau de la communication. Donc voilà, j'invite vraiment à revenir sur qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment te dire, voilà, moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux accompagner de cette manière-là, en tout cas par ce biais-là.
Il y a plusieurs points, notamment, tu vois, tu disais que j'ai été accompagnante en image, mais avant d'être accompagnante en image, moi, je me suis lancée en tant que community manager. Donc, il y a quand même un fil là, qui se lit, mais je pense que ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que moi, quand je suis revenue de mon épuisement, enfin, de ma pause, on va dire, Je me suis pas dit tout de suite, ah, je vais aider les gens à porter leur voix. C'était vraiment égoïste. Je me suis dit juste, qu'est-ce que tu kiffes? De quoi tu as besoin? C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de me faire plaisir et rien d'autre. Et donc, c'est déjà ça qui a commencé. Ensuite, le premier truc qui m'a fait tilt, c'est quand la formatrice de podcast management, elle nous a dit, je vais vous mettre sur mon annuaire, faites-moi une présentation, etc. Dites-moi ce que vous aimez, avec qui vous avez envie de travailler. Et là, automatiquement, je dis que moi, je suis sensible en fait à tout ce qui tourne autour de la justice sociale et que j'ai envie de travailler avec des entrepreneurs qui ont un message à apporter. Donc, ça vient comme ça tout seul. Mais je me pose pas plus de questions que ça. Ensuite, comme je reviens dans l'entrepreneuriat, j'y vais dans une autre formation où on parle d'image de soi pour remettre un peu mon image de marque en place. Et je rencontre une autre personne qui me dit, parce que je fais ma présentation, qui me dit, il faut absolument qu'on discute. Je sens que ce que tu fais, c'est vraiment ce qu'il me faut. Et en fait, cette personne, en fait, elle est fonctionnaire. Et donc, elle veut lancer un podcast. Et donc voilà, on fait tout le processus, mais elle me dit, en fait, je ne sais pas si j'ai le droit de m'exprimer, en fait, par rapport à mon statut. Donc elle me dit, ce que je fais, c'est que je vais voir un avocat et je reviens vers toi pour voir si c'est possible et tout. Il s'avère que ce n'est pas possible, parce que comme elle a ce statut-là, elle a une espèce de droit de réserve ou un truc comme ça, donc elle ne peut pas. Et là, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, donc il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer, qui peuvent pas se. Il y a un truc qui se révolte un peu à l'intérieur de moi. Et ça commence à faire son petit bonhomme de chemin. Et après, je rencontre, on va dire, l'une de mes premières clientes qui fait un podcast sur le sujet du burn-out et qui a fait un passif de militante. Et je vois qu'en fait, on peut créer en fait un podcast où on partage ce qui nous tient à cœur. Sur notre cause et en même temps qui sert aussi notre activité entrepreneuriale. Donc ça fait un autre déclic. Et je pense que vraiment le déclic qui me dit OK, c'est là-dessus, c'est quand j'ai commencé moi à travailler sur ma propre voix. Et là, je me suis dit OK, non, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'aller. Et du coup, je me suis lancée en fait.
Trop bien, merci. Bah, là, tu nommes un de mes moteurs, le kiff. Bah, évidemment, je trouve que on n'en parle pas assez. Surtout parfois, en fait, on peut être dans un conditionnement où justement, il faut que les choses soient besogneuses, qu'on soit dans un labeur, que ça soit dur pour que c'est de la valeur. Et là, tu parles du kiff, de en fait, qu'est-ce qui me fait kiffer. Et je trouve que ça peut être en fait, hyper important de le rappeler que ça peut être là, en fait, comme mise en mouvement, remise en mouvement. Et tout ce que tu dis aussi sur les éléments de friction, aussi, je trouve que c'est bien de le rappeler que ça peut être un super moteur. Et c'est vrai que là, tu as nommé le fait du travail que tu avais fait, toi, auprès de ta voix, ton expérience personnelle, toi, en fait, auprès de ta voix. Comme tu t'en parles maintenant, j'ai envie de te poser la question, bah, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? Parce qu'on sait à quel point il y a du mindset en fait derrière pour porter sa voix, il y a des émotions derrière en fait pour porter sa voix, pour porter vraiment c'est ce mot-là, c'est pas porter une voix, c'est porter sa voix, incarner sa voix, c'est vraiment tout un cheminement. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous raconter?
Alors, je pense que c'était fin 2023, donc vraiment ouais, vers novembre. Du coup, on se rencontre là, du coup, dans le collectif des entrepreneurs des étincelles. Et moi, je choisis de m'y inscrire pour justement travailler sur ma relation avec la voix, avec ma propre voix. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas non plus assumé chez moi. Et donc, je me dis, si tu veux faire ce travail auprès des autres, il faut que tu le fasses pour toi-même. Parce qu'en fait, moi, le truc, c'est que j'avais des choses à dire, je savais que j'avais envie de les dire, que je voilà, mais je savais pas vraiment comment les dire ou j'avais peur de les dire. Donc la première chose qui m'a frappée dans ce travail, c'est de me rendre compte que ce qui parfois moi m'empêchait de porter ma voix, c'était ma réaction face à la réaction que pouvait provoquer ma parole. Et ça a été hyper puissant parce qu'en fait au début je me disais j'ai peur qu'on me taque, qu'on me critique, etc. Mais en fait, non, ce qui était vraiment sous-jacent, c'était qu'en fait, c'était comment moi je vais me comporter, comment je me comporte quand ma parole déplaît, quand ma voix, quand quelqu'un n'est pas d'accord, etc. Et c'est toutes les sensations, les sentiments les émotions même qui en ressort, qui étaient difficiles à gérer. Une fois que j'ai vu ça et que je me suis dit, OK, bon, alors ça, c'est OK, ça peut faire des frictions. Qu'est-ce qu'on en fait? On est d'accord, on n'est pas d'accord? On est d'accord. On assume que, en fait, ça peut générer autant du positif que du négatif. Et j'ai dû après faire un deuxième pas qui était celui de, on va dire, de voir la colère autrement. Parce que du coup, moi, ben, toi, quand tu te présentes en tant que vénère, ça me parle trop parce que je me dis, moi, mais je suis née en colère, tu vois. Et ça, c'était un truc que moi, j'arrivais pas du tout, un truc qui aimait à gérer. Et c'est quelqu'un qui, une copine, qui poste qui fait un post sur Instagram et qui dit, en fait, la colère est saine. Et en fait, là, ça a ralenti, tu vois. Je me suis dit, OK, en fait, la colère, c'est pas tant la colère, le sujet, qui finalement exprime juste le fait que, en fait, moi, je suis pas d'accord, je suis pas contente, que c'est hors de ma frontière, on va dire, que plutôt après les actes ou, enfin, comment ça s'exprime derrière, qui peut être sain ou pas sain. C'est ça, en fait. C'est pas vraiment la colère, le souci. Quand ça, en fait, je l'ai aussi accepté, ça m'a permis d'aller voir que, ma voix, en fait, c'était aussi le reflet de la société. Dans le sens où, c'est intéressant, et ça, c'est parce que si je le vois aussi chez des clientes, de savoir d'où part aussi notre voix et de savoir qu'on est aussi influencé. Et quelque part, quand on dit, quand on s'exprime, on peut dire des choses, mais qui sont, bah oui, le reflet tout simplement de la société, des injonctions, de tout un tas de choses, le patriarcat, le capitalisme, etc. Et d'être au clair avec ça. Donc ça m'a demandé, je peux faire ça. Et ensuite, ça c'est un truc qui a été hyper important aussi, ben par rapport au collectif, c'est de me rendre compte, ou en tout cas de me dire à moi-même que ma voix n'a pas vocation à impacter. Dans le sens où parfois on peut se mettre la pression, mais moi c'est quand j'ai vu que ben, dans un espace de groupe là, comme on est entre nous, ben parfois je vais dire quelque chose à une personne, ben cette personne ne va pas le recevoir, mais dans l'espace, une autre personne, ça va faire ricocher par une autre personne qui va me dire merci. Bien, mais en fait, ce que tu as dit, en fait, ça a parlé, alors que c'était pas forcément destiné à elle. Ou alors, la personne vers qui c'était destiné, c'est après coup que ça va émerger chez elle. Ou parfois, je vais même pas en savoir, ça sera peut-être jamais, peut-être que ça va pas faire d'impact. Mais du coup, d'enlever cette pression aussi par rapport à ça, de me dire que bah voilà, faut que ça ait un impact, faut que ça machin, faut qu'il y ait absolument faut que ça soit nécessaire, etc. Non, je n'ai pas à prendre la parole que quand c'est nécessaire ou que quand c'est parce qu'en fait je n'en sais rien et qu'en plus ça peut faire ricocher. Et j'ai un exemple, c'est que là pour les législatifs, bah j'ai pris la parole voilà, parce que enfin, j'ai pris la parole et je vois une copine qui fait un post sur Facebook, un endroit où je vais rarement, tu vois. Et je lui dis, ah, c'est franchement, merci pour ce poste, etc. Ça m'a vraiment touchée. Et elle me dit, mais c'est parce que je t'ai vu faire que ça m'a donné l'impulsion de faire, en fait. Et là, je me suis dit, OK, en fait, on n'a même pas conscience aussi de la portée de notre voix, en fait, de la puissance de notre voix. Et qu'en fait, parfois, juste porter sa voix, c'est nécessaire. Parce que ça peut aussi influencer sans qu'on le veuille, ou même, si on le veut, les autres. Et là, je suis dans un cheminement autour de porter ma voix. Ça peut se faire aussi de la manière dont moi j'ai envie, avec mon propre style. Parce que j'avais aussi cette idée que si je m'exprime, si je porte ma voix, ça doit se faire de manière peut-être hargneuse ou quoi, etc. Et je me suis dit, bah non, moi j'aime beaucoup l'humour, en fait. Donc du coup, je me suis dit, bah en fait, ça peut passer par là, comme ça peut passer par autre chose. Parce qu'il y a différents types de voix, en fait. Il y en a qui peuvent être plus cash, plus brutes, d'autres plus spontanées, plus joueuses, et que c'est OK, en fait. Ça fait partie, en fait, de la diversité, tout simplement. Et le dernier truc sur lequel, là, je suis encore actuellement en train de bosser, c'est sur le fait que ma voix est assez. Parce que souvent, tu sais, on te dit, ben, enfin, toi-même, tu te freines en te disant, ben, il faut être un expert, il faut avoir certains diplômes pour pouvoir s'exprimer sur un sujet. Et alors que en fait, parfois l'expérience est suffisante, en fait. Donc voilà, mon expérience autour de la voix, elle est en train de, elle continue, elle est pas terminée. Et moi, ça me permet aussi de voir aussi chez mes clientes ce qui se passe en fait, d'avoir fait ce travail pour moi.
Trop bien. Et j'imagine qu'encore aujourd'hui, ça doit être des échanges. En fait, il doit y avoir du vice-versa. Tu dois, ça doit impacter ça, tout ce que tu as vécu, toi, finalement, consciemment ou inconsciemment, tu le transmets en fait à tes clientes. Mais aussi de les voir en fait évoluer. Je pense que mine de rien aussi, doit se passer des choses, toi, en retour. Est-ce qu'il y a, tu sens ces mouvements-là? Ouais, je dois faire ça.
Non, mais de toute façon, moi, les personnes qui viennent me voir, à chaque fois, je me dis non, mais c'était genre, c'était le moment parfait, les sujets qu'elles décident de transmettre. Enfin, le message, ça fait écho en fait à ce qui se passe aussi pour moi à différentes échelles. Mais oui, quand il y a une personne qui vient me dire, bon, en fait, moi, j'ai peur parce que j'ai peur aussi qu'on me catalogue. Parce que c'est vrai que souvent, maintenant, qu'on le voit, quelqu'un prend la parole. Ah, bah, t'es un islamo-gauchiste, ah, t'es un wokiste, ou autre chose, donc on va avoir peur de parler, de s'exprimer. Bah, moi, le fait d'avoir peut-être aussi vécu, je me dis, bon, bah, je peux aussi apporter mon soutien déjà, mon regard, et aussi bah, mon expérience, parce que du coup, maintenant, je valorise mon expérience, parce qu'il n'était pas toujours le cas avant. Mais ce qui est important, moi, ce que je leur dis souvent, c'est d'où est-ce que tu pars et d'où est-ce que tu parles. Parce que ça, c'est quelque chose d'important de se dire, OK, bah, je parle de tel endroit, je parle de telle expérience, je parle de tel... Et du coup, bah, je peux m'exprimer parce que je suis très au clair avec le point initial, quoi, d'où ce que ça part, en fait.
Mais c'est hyper intéressant. Et justement, pour revenir toi à ton expérience, en fait, justement, sur le travail de ta propre voix et de l'incarnation de ta propre voix, toi, quand même, pour les personnes qui nous écoutent, justement, elles te voient pas, mais tu es une personne, en fait, noire. C'est pas la même chose, c'est pas le même point de départ que, par exemple, moi, quand je t'ai dit, en fait, que je prenais la parole avec certains messages. Par exemple, même pour les législatives, on n'avait pas du tout le même point de départ, en fait, sur nos prises de parole. Comment est-ce que toi ça a été en fait ça a été quelque chose aussi que ce point de départ là que tu as conscientisé, que tu as travaillé, ou est-ce que en fait pas du tout, c'était un non-sujet en fait pour toi?
Je vais te dire que je me suis pas forcément dit je travaille à partir du fait que je sois une personne noire, mais c'est toujours en fond parce que je sais que bah, du coup ma parole elle non pas qu'elle va être plus vite décrédibilisée, mais quelque part oui. Et quelque part, en fait, comme il y a cette espèce de truc de, bah, en fait, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui savent pas. Moi aussi, en plus, je viens de banlieue, en fait. Donc, il y a toujours ce truc de, quelque part, bah, tu te tais. Donc, apprendre à s'exprimer, quelque part, ou porter sa voix, ou parler, c'est aussi vaincre tout ça, parce que moi, par exemple, dans le côté catégorisé, le premier truc qui vient, c'est oh, arrêtez de vous victimiser. Bah, c'est ces termes-là qui viennent. Donc, du coup, tu vas pas oser parler parce que tu vas dire, mais si je parle de mon expérience ou de ma situation, voici ce qu'on va me balancer et voici comment on va essayer de me muter. Donc, tout ce travail sur la voix, ça, c'est quelque part aussi un travail sur. Ça va sur un autre plan. Donc, là, on parle de mindset, tu vois, mais ça vient bousculer d'autres choses, en fait, sur le fait que, en fait, ben, je m'en moque, là, de ce que tu dis. Je me suis fait des petits trucs d'entraînement où moi je répondais en commentaire, tu vois, sur Instagram pour aussi y aller, tu vois, pour avoir envie, pour me dire en fait je prends ma place en tant que personne, tu vois, et après en tant que personne noire. Et donc du coup oui c'est en fond, c'est-à-dire que je me suis pas dit ça tout de suite, mais ça reste toujours en fond parce que oui effectivement les mots, les insultes ou les pics ne vont pas être les mêmes.
Exactement, et moi j'ai bien vu la différence même depuis presque un an avec tout ce qui se passe en Palestine par rapport à des consoeurs, on va dire racisés. Je pouvais partager les mêmes contenus, j'avais pas du tout en fait les mêmes retours, j'avais pas du tout les mêmes réactions. Donc bien évidemment en fait que oui, il y a ces points de départ là qui sont différents. Et est-ce que justement toi, t'as, si on revient sur le sujet de tes clientes, tes accompagnées, finalement, on est en train de nous dire en fait que porter sa voix, ça demande vraiment un certain point de départ, déjà de le conscientiser et puis aussi d'être au clair en fait avec certaines choses. Et enfin, on va poser ça en fait finalement. toi, la plupart de tes clientes, quels sont leurs points de départ en fait à elles? Elles viennent te voir en fait pourquoi? Et toi, tu as repéré en fait chez elles des blocages, qu'est-ce qu'elles rencontrent le plus souvent? Qu'est-ce qui les freine le plus? Et surtout, qu'est-ce que tu repères ensuite comme élément clé qui vont bouger, qu'elles puissent assumer en fait et affirmer leur voix?
Moi, j'ai beaucoup de clientes qui, en fait, communiquent déjà sur les réseaux sociaux. Ben, c'est des entrepreneurs à la base. J'en ai en plus qui sont dans le milieu de la communication. Donc, il y a tout un. Y a un le point de départ est celui-ci. C'est-à-dire qu'elles se sont déjà exprimées. Je crois que jusqu'à présent, j'en ai pas eu qui ne sont jamais exprimées. Sauf, tu vois, ma première prospect, là, qui. En fait, n'avait jamais été même sur les réseaux sociaux, etc. Et c'était un sujet pour elle, ce côté. En fait, là, je sais pas comment je vais m'y prendre, en fait. Donc, elle avait vraiment besoin d'un accompagnement aussi à ce niveau-là. Là, pour les personnes que j'accompagne, ça va vraiment être plus dans le fait que elles n'ont pas envie aussi. Enfin, c'est un truc qui revient souvent, c'est que j'ai pas envie de d'éduquer. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Si j'ai envie de faire un podcast. Elles sont fatiguées aussi souvent d'Instagram, des réseaux sociaux, parce qu'elles ont pas, elles ont l'impression de ne pas avoir le temps de pouvoir vraiment dire ce qu'elles ont envie de dire. Et pour elles, du coup, le podcast, c'est un moyen en fait de pouvoir s'exprimer pleinement, sans aussi à faire le jeu de l'algorithme, mais aussi de ces petits trucs de ah bah je dis un truc, il y a quelqu'un qui vient, qui me fait un commentaire, qui est pas content, etc. machin, etc. C'est comme si elles avaient envie de créer aussi une petite un espace en fait, une petite bulle à elles, un espace qui soit quand même ouvert quoi. Contrairement peut-être aussi un peu à la newsletter. Donc les choses qui vont revenir comme j'ai dit ouais, c'est vraiment plus le côté pas envie d'éduquer, pas envie non plus d'être catégorisé, catalogué, tu vois. Il y a des peurs aussi d'être pour certains d'être accusé de réappropriation sur certains sujets, certaines causes. Donc ouais, c'est les principales problématiques que je vois, c'est ça. Après oui, il y a la peur d'être critiquée, mais elle vient moins parce que justement elles ont l'habitude déjà d'être sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a aussi le sujet de est-ce que j'en connais assez? Est-ce que je comment dire? Ouais, je suis assez expérimentée sur le sujet. Et certaines, mais là encore, c'est encore autre chose parce que s'exprimer sur les réseaux sociaux et prendre le micro, c'est autre chose. Mais il y a tout un rapport à la voix qui doit être fait. Mais plus, je n'aime pas m'écouter, j'aime pas ma voix en fait. Moi, j'aime pas du tout. Et on y va progressivement parce que c'est pas facile pour tout le monde. Parce que ça je le vois plus, tu vois, en montage que vraiment au niveau du lancement. Parce que je leur demande de réécouter aussi ce qu'elles ont fait pour me dire les endroits qu'elles veulent laisser et tout. Et en fait, si je les écoute, on enlève toute leur voix. Par exemple, si on fait une interview, on laisse que l'intervenant et on coupe tout. Donc, tu vois, c'est aussi un cheminement. Et toi, là, c'est en t'en parlant, je me dis, mais ouais, c'est vraiment un travail d'accompagnement vers aussi vers soi-même. Donc, ça fait le lien aussi avec mon travail d'avant, d'accompagnement sur l'image. Parce que, en fait, parce qu'il y a ce qu'elles veulent dire, mais il y a aussi finalement, ok, on y va, on y est, on est devant le micro. Est-ce que j'assume ça en fait?
Clairement, hein. Clairement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai que souvent, on peut avoir le réflexe de vouloir lancer son podcast en proposant des interviews. Parce que aussi, au niveau des contenus, au niveau de l'info entrepreneuriale, les formations qui peuvent circuler autour des lancements de podcasts, souvent, on peut dire que les interviews, c'est la manière la plus simple et la plus facile, en fait, au tout début pour lancer son podcast. Moi, je suis plus trop d'accord avec ça, mais c'est vrai que voilà, ça peut être, c'est l'effet, c'est un biais cognitif, hein, c'est le biais de halo, c'est-à-dire que vraiment la renommée de quelqu'un va ressurgir en fait sur mon podcast. Alors, et en même temps, j'allais dire, mais et en même temps, ça peut être aussi un piège dans lequel en fait on peut tomber, qui est que je vais me cacher derrière la parole de mes intervenants et de mes intervenantes, et donc je passe à côté. Mais finalement, ma pensée, mes messages clés, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire aussi avec ce podcast-là. Et donc les épisodes solo sont, moi je trouve que sont très 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 intéressants du côté de ce rayonnement-là et du pouvoir de la voix, de le pouvoir en fait de sa voix. Et finalement, qu'est-ce que tu as remarqué chez tes accompagnés quand on parle d'éléments clés qu'elles ont pu adopter pour réussir ensuite à affirmer leur voix, à vraiment rayonner avec ce projet-là de podcast qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Est-ce que tu vois des patterns, des transitions qui sont toujours assez communes, qui reviennent souvent, où voilà, il y a des tics, des émotions, des ressentis, des autorisations qui arrivent voilà, qu'est-ce que tu as remarqué comme point commun?
Je ne sais pas si j'ai remarqué encore. Je pense qu'il me faudra encore un peu de recul. Mais en tout cas, je sais que ben de s'écouter, les retours des autres aussi. Ça, c'est quelque chose qui leur fait switcher un peu, parce qu'elles se rendent compte que au-delà de ma voix me plaît pas, ce que je dis est intéressant. Ce que je dis a un impact. Ce que je dis est fort. Là, il y a pas longtemps, il y a une cliente en fait où je lui disais mais je sens que ta voix elle est un peu robotisée, c'est-à-dire que ça fait un peu, enfin robotisée, un peu radiophonique, tu sais, ça fait un peu on lance comme on lance les jingles, etc. Ben, tu peux être plus plus naturel, c'est ok. Et en fait ben voilà, à force de faire, elle a aussi été moins stressée et elle s'est rendue compte que oui, en fait c'est parce que le fait de faire. Moi, je dis toujours, allez-y, hein, lancez-vous dans le bain, hein, quitte à venir travailler avec moi après, quand vous avez lancé votre podcast. Parce que le fait de faire, bah, en fait, ça te met face aussi à tu coupes certaines idées reçues ou certaines choses qui te mettent en stress. Et du coup, après, à force d'interviewer, de même toi prendre la parole, bah, ça devient de plus en plus fluide. Et puis, tu te rends compte, oui, que ça, quand t'as des retours des autres, que ça a un vrai impact. Et là, non pas que tu te détends, mais tu vois la portée de ce que tu es en train de créer. Et ça, voilà, ça va beaucoup plus relaxer les gens. Mais après, peut-être qu'un jour, j'aurai un peu plus de recul et je pourrais te dire, effectivement, il y a des endroits où je vois que automatiquement, ça switch. Pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas encore assez de recul.
Ça marche. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du lancement en fait, de podcast. Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés, comme tu l'as dit, dans l'espace des étincelles, le groupe d'entrepreneurs créé par Estelniana. Et c'est vrai que moi, tout de suite, quand tu as posé des messages clés comme podcast manager, j'ai commencé à tendre l'oreille. Mais là où vraiment, moi, je me suis dit, ah, faut que je bosse avec Cindy, c'est quand justement tu as commencé à parler de justice sociale, quand tu as commencé à poser ta vision, une chose que tu n'avais pas forcément pu faire au début peut-être des sessions où j'étais pas là encore, en tout cas. Et surtout quand tu as commencé à parler en fait de création sonore, de production, de vraiment d'avoir envie de créer des formats originaux, je me suis dit ah mais peut-être que je vais avoir besoin de Cindy pour relancer accompagnante. Et c'est pour ça que là sur cette partie de l'épisode, j'aimerais bien qu'on vienne sur ce fameux retour du podcast, le relancement du podcast. Que moi c'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai fait appel à toi. C'est parce que accompagnante version 1 voilà avait eu lieu et qu'il y avait eu cette pause et que j'avais envie et besoin là que il y ait une version 2 qui puisse arriver là, que ça puisse éclore. Qu'est-ce que tu retiens en fait de notre accompagnement justement pour la naissance de cette nouvelle version? À ton avis, quelles ont été les étapes clés voilà du parcours selon toi là, quand on revient un peu sur ça, parce que pour revenir sur la chronologie, j'ai fait appel à toi, je crois, en avril-mai. Et aujourd'hui, on est en septembre 2024.
Alors, bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, moi, j'avoue que quand tu m'as contacté, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh là là, elle a dit, casse, il marche bien en plus et tout. mais après, quand on a fait voilà, l'appel et tout, je me suis rendu compte que oui, il y avait des endroits où je pouvais vraiment t'apporter une plus-value. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a reposé les bases en fait de ton podcast. C'était important pour comprendre aussi ce que toi t'avais envie de laisser, t'avais envie de changer, etc. Ensuite, on a été regarder du côté de la monétisation. Et ça, c'était important parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que il faut considérer son podcast comme un business. Donc, c'est pas tout le monde qui en est là, ça demande des fois un cheminement parce qu'il y a des fois il y a des personnes qui ont besoin d'abord de lancer leur podcast comme un moyen de s'exprimer, un outil d'expression. Mais je dis souvent à mes clientes de ne pas oublier que c'est un outil d'expression, un outil de revendication, mais que c'est aussi un outil de vente. Ça, c'est aussi important, mais après, chacun son cheminement. Ensuite, on a été on a parlé un peu plus de communication, de promotion et de comment, en fait, on a envie de créer l'engouement autour du podcast. Et on a eu un dernier rendez-vous sur le lancement. Et là, c'est là où on a vu l'émergence. Moi, j'ai vu l'émergence du Punchline Festival. Et en fait, moi, cet accompagnement, il m'a beaucoup aidé même sur ma propre confiance. Parce que du coup, ça m'a permis de voir que, enfin, si j'explique un peu le contexte, j'avais aussi quand même un gros syndrome de l'imposteur quand je me suis lancée dans le podcast management. Et ça m'a aidé aussi à prendre confiance dans le fait que mon point de vue, ma vision et ma façon de faire apporte aux autres, en fait. Donc, les points importants vraiment pour moi, ça a été de revoir les bases, la monétisation, parce que voilà, je me suis dit, y a des gens qui ont envie vraiment de prendre leur podcast au sérieux, dans le sens sérieux, dans le sens où, on va plus loin, quoi. On a vraiment envie de créer quelque chose autour de ce podcast. Et puis le lancement, parce que en fait, ça a impulsé aussi autre chose chez moi, ce qui fait que du coup, je me rends compte de l'importance de créer aussi un événement autour de ce podcast. Parce que j'ai eu différentes clientes qui ont fait différentes façons de lancer. Et je trouve aussi ça rejoint encore cette idée que le podcast, c'est. Moi, je dis toujours, c'est comme une petite œuvre, en fait. C'est une petite œuvre d'art, et que si on le considérait comme un livre, parce que je vois, il y a des gens qui lancent, enfin, qui parlent de leur épisode, parlent de leur podcast, mais comme un à côté, tu vois. Comme un truc, ok, voilà, c'est là. Mais finalement, c'est quelque chose d'assez puissant et qui peut être mis au centre et qui peut servir à différents niveaux, en fait.
Trop bien, merci. C'est hyper intéressant d'avoir ton regard sur cet accompagnement-là. Parce que moi, c'était évident que quand je suis venue te voir, t'avais plein de trucs à m'apporter, quoi. C'était pour vraiment revenir sur le contexte où on est avril-mai, ça fait déjà plusieurs mois que je me dis qu'il faut que je reprenne le micro et que j'y arrive pas. Et que au début, je me dis j'y arrive pas parce que non pas que j'ai plus rien à dire, mais c'est parce que j'ai trop de choses à dire. J'ai trop, et vraiment, je crois que je suis venue avec toi, le premier rendez-vous, je crois que je t'ai annoncé un peu la couleur en te disant, faut que tu m'aides à me déconstiper, là. Je suis constipée de moi-même. Et là, il faut que tu m'aides. Faut que ça sorte. Et c'est pas qu'il y avait plus rien, c'est qu'il y avait trop de choses. Et ça, c'était lié, en fait, à tout ce qui s'était passé dans ma vie, côté perso, côté aussi pro, avec la formation, en fait, de la pilule rouge. Avec plein de changements aussi dans ma manière de pratiquer, le fait que j'avais arrêté le cabinet en présentiel, que j'avais tout basculé en visio. Et aussi parce que j'avais mes messages qui avaient énormément bougé. C'est juste qu'ils avaient pris beaucoup plus d'ampleur, et qu'il y avait vraiment toute cette clarté qui commençait à arriver. Mais j'ai vraiment eu ce sentiment d'être constipée, vraiment pendant des mois et des mois, et ça ne voulait plus sortir. Et le travail qu'on a fait ensemble, m'a permis de réaliser. Et c'est là où tu parles de la monétisation, et je pense que c'est important, en fait, de comprendre pourquoi on en parle, en fait, là. C'est que c'est pas simplement comment je vais pouvoir me rémunérer pour tout ce travail-là. Mais c'était aussi, en fait, autre chose, c'est que il y avait vraiment, en fait, cette pause, je pense, si je reviens vraiment à ce qui se passait pendant des mois et des mois. C'est qu'il y avait une part de moi qui avait énormément bossé depuis 2020. Parce que j'ai fait appel à toi en avril-mai 2024. Donc, depuis 2020, j'avais quand même ce rythme hyper intense au niveau de la production de podcast. Et il y avait une partie de moi qui, en fait, faisait barrage. En fait, qui c'est qu'il y avait cette constipation et il y avait ce barrage. Et il y avait cette facette de moi que tu as réussi à me faire toucher du doigt, qui disait, en gros, si tu ne changes pas ta vision, ton modèle économique, si tu n'assumes pas justement ta voix et ta vision, beaucoup plus globale, beaucoup plus lointaine de ce podcast-là, je ne bougerai pas et je ferai toujours barrage. Et donc, il y avait en fait un levier de protection qui était de falloir que tu travailles plus en sécurité pour toi-même en assumant en fait ta vision beaucoup plus globale et beaucoup plus ample de ce podcast-là. Et c'est vrai que tu l'as nommé au tout début. Moi, je pense que j'ai vraiment été cette personne type qui voulait lancer son podcast en décembre 2020 pour pouvoir avoir un moyen d'expression pour poser en fait ses premiers messages. Et en même temps, c'est vrai que pendant plusieurs années, je dis même pas moi, c'est que pendant plusieurs années, j'ai ignoré quand même l'ambition et la vision qui a toujours été là en fait dès le départ, même décembre 2020, qui a été que le podcast accompagnante, pour moi en fait, c'était une communauté, c'était un événement, c'était même un événement physique où en gros, ça allait devenir un média qui allait sponsoriser des événements, qui allait sponsoriser en fait des remises de prix, qui allait sponsoriser des groupes de réflexion. Vraiment un média d'influence à part entière. Et pendant des années, j'ai mis entre parenthèses cette mission-là en me disant « on verra plus tard ». Et je pense que la pause, c'était cette facette de moi qui a dit « en fait, c'est plus le plus tard, là. Le plus tard, il n'existe pas, c'est maintenant ». Et j'ai mis vachement de temps, je crois, à mettre le doigt sur le fait que c'était vraiment une facette de moi qui était là pour me rappeler ça. Et donc, la monétisation, ça a été aussi de prendre, comme je disais, au sérieux cette vision-là. Et se dire bah comment on y va quoi, quelles étapes on va mettre en place pour pouvoir y arriver. Alors peut-être pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais comment, en tout cas, comment on se remet en route par rapport à ça. Et ce que j'ai kiffé, c'est que au moment du lancement, qu'on a travaillé ensemble dessus, tu m'as très bien rappelé ça. Tu m'as dit non, mais en fait, le lancement peut faire partie de cette étape là. Et c'est vrai que c'est ce Punchline Festival là aujourd'hui, c'est la V1 de cette vision qui aura lieu, je sais pas, dans 3, 4, 5 ans, j'en sais rien. Donc voilà, il y a cette raison de la pause qui est quid de la monétisation, mais qui a aussi en fait la vision de ce média d'influence et cette notion aussi d'outil politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis qu'Accompagnante est un projet militant. Et ça aussi, je l'ai posé en fait grâce à toi. Je me suis dit, mais bien évidemment que c'est en fait un projet militant. Voilà, c'est je pense que c'est intéressant qu'on coïncide, enfin tu vois, qu'on se parle sur ces notions-là, parce que je crois que même dans l'accompagnement, c'était pas dit jusqu'à maintenant comme ça aussi clairement.
Non, c'était pas gênant.
Pour rien. Et ce qui est marrant, c'est que aussi le fait de t'avoir rencontré dans le groupe des étincelles, c'est aussi une manière où j'ai pu te rencontrer aussi en tant que personne. Avant qu'en tant que seulement entrepreneur qui propose une offre qui pourrait m'intéresser. Et ça aussi, moi, je pense que dans mon évolution personnelle et professionnelle, ces derniers temps, ça va faire 2 ans, où toutes les personnes qui m'ont accompagnée, je les ai choisies en fait exactement comme ça. C'est-à-dire que j'ai d'abord rencontré des personnes qui avaient en fait des compétences et des capacités qui pouvaient en fait m'aider. Et c'est avant tout des personnes. C'est avant tout une rencontre, quoi. Donc c'est vrai que, avec tout ça, moi, c'était évident quand on a eu notre premier rendez-vous que tu étais la bonne personne pour m'accompagner, quoi. Ça, j'avais aucun doute là-dessus, quoi. Et justement, comme je parle de vision, je parle de médias d'influence, d'outils politiques, toi, là où tu en es aujourd'hui, de ton expérience, aussi tout ce que tu as pu écouter aujourd'hui sur podcast, pourquoi tu penses que le podcast est un outil puissant pour changer les perceptions des gens? Toi, tu nous en as un peu parlé, en fait, par rapport à 2021, mais quelle expérience, en fait, t'as vécu, toi, par rapport à ça, cette notion que le podcast, oui, c'est un outil puissant pour changer les perceptions des personnes?
Alors, en fait, je pense qu'en fait, le podcast, après, il y a différents types de podcasts, mais ça permet, en fait, vraiment de développer l'empathie et la tolérance, parce que on rentre dans des endroits inaccessibles, mais on rentre aussi chez les gens. Je pense notamment au documentaire, au podcast documentaire, mais même quand on va interviewer des personnes qui nous racontent leur vie, on peut, on va dire, bousculer nos idées reçues ou les clichés même vers lesquels on est confronté. Souvent, c'est des récits, en fait, des récits de vie ou voilà, même des opinions. Donc comme on le sait, hein, aujourd'hui, il y a la parole, enfin, en tout cas, certaines informations sont assez, c'est toujours un peu les mêmes qui ont cette parole et qui peuvent, qui peuvent partager, on va dire, leur vision, leur opinion. Internet a bousculé pas mal tout ça. Mais je pense que le podcast, il a rajouté le côté intime. Et donc, comme on parle d'intime, d'expérience, de récit de vie, on a une autre perception des gens. Là, par exemple, dans un des podcasts que j'ai donné dans la playlist, c'est je ne suis pas née femme. Donc voilà, une personne qui parle d'intersexualité, de comment ça fait d'être née en fait comme ça, ou le rapport au médecin, etc. Et tant que si tu connais pas une personne qui l'a vécu, si tu peux regarder un reportage, mais là c'est vraiment une personne qui te raconte et qui témoigne de sa vie, de ce qui s'est passé pour elle. Et je trouve que ça a pas de prix. Et en fait, enfin, je dis t'es obligé, non, parce que ça dépend en fait après ta sensibilité, mais t'es obligé de changer de vision des choses sur les choses. Il y a un autre podcast dont je parle qui parle de polygamie, par exemple. Et ça aussi, moi, ça m'a bousculé parce que je me dis, mais en fait, tu nais avec une idée préconçue de ce qu'est là, pour le coup, la polygamie. Et quand tu rentres dans la vie des gens, dans leur récit, dans leur témoignage, ça, comment dire, c'est des personnes concernées qui te parlent. Donc, tu peux pas, j'ai envie de dire, tu peux pas remettre en question aussi leur vécu, leurs sentiments et leurs sensations. Donc, c'est là où, pour moi, je trouve que c'est la force du podcast, c'est que ça permet vraiment de développer, d'avoir plus d'empathie. Alors, moi, c'est peut-être que je suis dans une idéologie, hein, mais voilà, de développer son empathie. Et il n'y a pas longtemps, tu vois, je lisais un livre sur la bibliothérapie. Et un des, alors, je sais pas, je crois que c'était un psychanalyste, tu vois, qui disait que raconter sa vie, tu vois, ça permettait de prendre du recul, de faire le point, de faire même le fois le deuil, mais d'écouter aussi la vie des autres, ça permet d'avoir un effet miroir et de se rendre compte de certaines choses qui se sont passées dans nos vies ou comment on a agi. Et pour moi, en fait, j'ai envie de dire que c'est un acte de soin finalement aussi. Ce matin, tu vois, on parlait du fait que prendre la parole, c'est se guérir. Ah ben, je trouve que là, pour le coup, le podcast, on prend la parole et oui, en fait, on va guérir en soi des parts de nous, quoi.
Forcément, moi, il y a des choses qui résonnent même par rapport à mon parcours, et je le dis en fait pour toutes les personnes qui voudraient lancer leur podcast. Moi, j'ai galéré au début pour les épisodes solo pour ça aussi, à quel point de voir en fait que la parole allait toucher des parts de moi ou des événements où je pensais pas que juste le nommer comme ça allait en fait autant venir frotter, autant mettre en exergue en fait certaines choses. Et ça m'arrive encore aujourd'hui là, quand j'ai repris le micro depuis quelques semaines, et même au tout début, je me sens très bien d'accompagnante. Mes premiers épisodes solo ont été horribles, et horribles, vraiment très très durs, émotionnellement parlant, parce que ça brassait en fait toute cette notion d'assumer sa voix, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi, pourquoi je dis ça, pourquoi je dis ça, pourquoi je dis ça comme ça? Et finalement, tu te mets à raconter en fait comment t'en es venu à dire cette phrase-là. Et donc moi, ça m'a fait replonger dans des souvenirs, dans des émotions, dans des vécus. Tu parlais en fait de l'intime, du vécu. C'est ta propre caisse de résonance finalement. Avant de faire effet miroir, tu te fais effet miroir avec toi-même. Alors c'est très bizarre parce que tu parles toute seule. Mais il y a vraiment un truc hyper symbolique de ça y est, j'ai lancé l'enregistrement, il y a le petit point rouge qui s'allume là et qui clignote. Et donc je dis des choses. Et il y a des facettes de toi qui arrivent et qui prennent la parole alors que tu n'avais pas du tout prévu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des dossiers entiers d'épisodes solo je pense, ne vont jamais sortir en l'état. Parce que c'était des V0, V1 d'épisodes solo qui ensuite sont sortis. Mais dedans, en fait, je parle pendant 2 heures d'un truc qui finalement après va être synthétisé et j'arriverai à le réenregistrer, ça va faire 40 minutes. Moi, je fais toujours des épisodes très longs, donc c'est mon max de synthèse. Mais en gros, il y a quand même j'ai quand même des dossiers remplis d'épisodes solo hyper longs, hyper chargés, hyper émouvants, où je me mets à chialer, où je me mets en fait à avoir des grosses émotions. Et je ne sais pas ce qui se passe pour moi, et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, que ça, avant qu'on écoute des produits finis, des versions finales qui ont l'air léchées, qui ont l'air super bien, hyper chouettes, où tout est clair, tout est pertinent, ou quasiment, il y a peut-être des V0, V1, V2 qui le font en 3 heures et qui sont pleines de larmes ou de bafouillages ou de pourquoi je dis ça, mais comment ça me vient et de choses comme ça. Donc il y a vraiment ce truc, oui, que avant ça devienne en fait un média d'influence vers l'extérieur ou un outil politique extérieur, il y a aussi quelque chose qui se passe vraiment en résonance, même dans sa propre intimité, quand on décide de prendre le micro. Et je pense que ça, mine de rien, ça se sent encore, ça laisse des traces, en fait, quand les personnes écoutent. Il y a quand même des choses qui partent dans l'univers. Après, même une V3. Je sais pas ce que t'en penses, Cindy, quand je te dis tout ça.
Ouais, je souris parce que tu sais, moi, en fait, le matin, j'ai ma petite marche, mon petit sport de. Et en fait, j'ai une habitude, c'est que je fais ce que j'appelle moi des audios libres, en fait. Donc, en fait, je marche et je m'enregistre et je déblatère pour, en fait, pouvoir processer des choses, quoi, qui se passent, qui sont là et que des fois, j'arrive pas à exprimer. Donc j'ai des, tu vois, quand tu me parles des trucs ou des fois tu pleures ou des, moi c'est ça. Donc ça n'a pas vocation à être posté, mais en tout cas c'est un, ça, voilà, ça devient un outil de l'audio, en tout cas devient un outil de, ouais, de soin pour moi, parce que du coup ça me permet en fait de faire ce process, quoi. Donc ça, voilà, ça me fait sourire parce que oui, ça me parle complètement, le fait que finalement ça a déjà fait un effet miroir sur nous-mêmes. Peut-être que oui, c'est aussi nécessaire, tu vois, dans ce process d'enregistrer, etc.
Et voilà, la team de Turfu, c'est tout pour cet épisode d'Accompagnante. J'espère que vous avez kiffé autant que moi et que vous repartez avec votre dose de power. Rappelez-vous, Accompagnante, c'est un podcast et c'est aussi un espace, une communauté qui a besoin de votre force pour grandir. Alors pensez bien à vous abonner au podcast et à laisser une note et un avis sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est totalement gratuit, mais votre soutien n'a pas de prix pour moi, alors vraiment merci. Merci en fait de prendre ce temps-là. Et si vous voulez soutenir Accompagnante pour le pouvoir de l'argent, vous pouvez le faire via un don libre, c'est totalement possible. Je vous mets le lien de la cagnotte en description. Et d'ailleurs, en description, vous pouvez aussi retrouver toutes les ressources mentionnées dans l'épisode. Et pour aller plus loin, c'est sur mon site internet, elsacouteiller.com. La team, si vous avez aussi envie de partager vos tilts concernant l'épisode, si vous avez des questions, des idées de sujets ou des invités que vous aimeriez entendre dans de futurs épisodes, vous pouvez me contacter sur Instagram à @elsacouteiller. En attendant, continuez à repolitiser votre pratique d'accompagnement et à être les véritables révoltés dont le monde d'aujourd'hui a besoin. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'accompagnante. Je vous dis à plus dans le bus de la révolution et prenez bien soin de vous. Et de repolitiser vos cheveux. On va donc déconstruire les normes.
Et je veux que ça change.